Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce de pouvoir encore, Seigneur, regarder ta parole, l'étudier et essayer de comprendre ce que tu as voulu nous dire. Seigneur, tu es un Dieu de toute puissance et aussi un Dieu de toute bonté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Viens habiter nos cœurs, viens nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions passer un moment béni ensemble, Seigneur. Amen.
Amen.
Voilà, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'Abraham, enfin on doit dire Avraham en hébreu, et qui est une bénédiction pour le monde. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous rappeler, merci, les changements de nom. Vous vous rappelez qu'il s'appelait Avram et Sarai. Bon, et lorsqu'ils sont partis, ils ont d'abord été à Haran, et quand ils sont sortis de Haran, Avram avait 75 ans. Donc on peut dire qu'il a commencé son ministère à 75 ans. Bon, moi je rappelle que Moshe, lui, c'était à 80. Donc si ça vous dit, mais il y a encore de l'espoir. On n'est qu'au début. Alors, je lis dans Genèse 12, 5. Avram prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, je vous rappelle que Avram, le mot Avram, est constitué de deux parties. Il y a Av, alors je vais l'écrire. Voilà, un Aleph avec un A, bref, et puis un Bet. Av, ça veut dire... Pardon, c'est un A long ici, excusez-moi. Av, ça veut dire père. Hein? D'accord? Et la deuxième partie de son nom, c'est Ram, qui vient de la racine Rum. Rum, ça veut dire élevé, exalté. Donc, son nom, c'était Père exalté, Père élevé. C'est déjà un père, hein, dès le départ. Sarai, son nom s'écrit, alors, un sin, rappelez-vous, le point est à gauche, hein. Ça c'est un sin, avec un A long, un resh, un A bref et un yod. Sarai. Et Sarai, ça veut dire quoi? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot sar, comme ça, donc un signe avec un A long et un resh, ça veut dire un prince. C'est un prince. Vous voyez bien, là, ou pas? Oui. Et comme il y a un yod ici, ça veut dire à moi. Alors, une princesse, ça ne se dit pas Sar. Ça, c'est un prince au masculin. Au féminin, c'est Sarah. Alors, Sarah, voilà, avec un « et » à la fin. Ça, c'est le féminin. Vous voyez? Donc, un prince, une princesse. Et vous voyez que quand son nom va changer de Sarai en Sarah, eh bien, c'est que c'était ma princesse, donc à Avram, mais ça devient la princesse de tout le monde. Vous voyez ? Donc voilà le changement. Maintenant, concernant Avram, qui va devenir Avraham, alors j'ai cherché partout les racines. Et le fait de rajouter un Ham à la fin, c'est pas évident du tout de trouver quelle est la racine, pourquoi il y a eu ce changement. Et le changement, on ne le trouve que dans l'explication d'un verset, parce que Dieu dit, voilà, je te change ton nom parce que, voilà. Et je vous lis, c'est dans Genèse 17, 5, « Ton nom ne sera plus crié Avram, ton nom est Avraham, père d'une multitude. » Donc la signification de Avraham, c'est « père d'une multitude ». Oui, je t'ai donné en père d'une foule de peuples. Ça, c'est la traduction Chouraki. D'accord ? Alors, je rappelle, mais je l'avais déjà dit plusieurs fois, hein, mais ça fait rien. Avraham, ça s'écrit Aleph, avec un Alon, un Bet, avec un Sheva, un Resh avec un Alon, un He avec un Alon, et un même final. Voilà. Avraham. D'accord ? Alors, vous remarquez une chose importante, mais que j'avais déjà signalé, c'est que Sarai devient Sarah. Donc, elle perd un yod et elle reçoit un E. Je rappelle que le yod, ça vaut 10. Le E, ça vaut 5. Donc, Dieu lui donne la moitié et l'autre moitié va à Abraham. Vous voyez ? Donc, ce yod, il s'est transformé en deux E. Et le E, c'est le souffle, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, quand ils changent leur nom, ils leur donnent le Saint-Esprit, la capacité de faire leur fonction dans le rôle sur la terre. Leur capacité spirituelle de faire ce qu'ils ont à faire. C'est ce qu'ils reçoivent là, ils reçoivent l'Esprit dans leur nom. Hein ? C'est absolument extraordinaire. C'est à signaler à chaque fois qu'on en parle, parce que c'est vraiment important. Hein ? Alors, je rappelle aussi que avant que Avraham devienne une bénédiction pour tout le monde, il a dû passer 10 épreuves. On avait fait une étude, vous vous rappelez, hein, sur les 10 épreuves d'Abraham, mais je pense que si vous êtes comme moi, vous les avez oubliées. Donc, je vais simplement vous les rappeler, vous les lister, ces 10 épreuves, et vous allez découvrir que ben, nous aussi, on passe par des épreuves dans notre vie pour pouvoir être des bénédictions pour les autres. Alors, la première épreuve, c'est qu'il doit « et éloigne-toi de ton pays ». Donc, il doit quitter toute son éducation, toute son enfance, sa famille, etc. Il doit tout quitter, le lieu où il habitait. Il quitte tout, sans savoir où il doit aller. Donc ça, c'est la première épreuve. C'est vraiment une épreuve de foi. Et ça veut dire qu'il a confiance dans le Dieu qui lui dit ça, quand même. Parce que, mince, tu t'en vas de chez toi, tu quittes toute ta famille, etc. Et puis... y a la moitié de la famille qui reste, la moitié qui s'en va avec lui, etc. Quoi. Vous voyez, c'est... Bon. Ensuite, quand il arrive en Canaan, le pays promis, quand même, et ben là, c'est la famine. Alors, pour ceux qui pensent que quand on devient chrétien, il n'y a plus que des bénédictions comme ça, ben il faut réfléchir un petit peu, regarder un petit peu ce qui est arrivé à Abraham, et ça a formé le personnage. Il avait besoin d'être formé. Alors, étant donné qu'il y a la famine en Canaan, je vous signale qu'il y a déjà eu plusieurs fois des famines en Canaan. Il y en aura encore. Et bien là, la tradition, c'était de descendre en Égypte. Et Abraham descend en Égypte, parce que là-bas, il n'y a pas la famine, parce qu'il y a le Nil. Je rappelle que Jérusalem, c'est peut-être la seule capitale, je ne sais pas, il faudrait vérifier, qui n'a pas de rivière, qui n'a pas de fleuve. Elle ne peut vivre qu'avec l'eau du ciel. Tandis que toutes les autres capitales du monde ont des fleuves. Et évidemment, le Caire a un fleuve, etc. C'est l'eau d'en bas. Le Cédron, c'est un petit cours d'eau, hein, de rien du tout. Hein. C'est peu... Comment ? Il y a une source. Ouais. La source de Siloé. Voilà. Alors, ensuite, il arrive en Égypte. Ça, c'est donc la deuxième épreuve, hein, parce que c'est la famine. La troisième épreuve, ben, c'est que Sarai, elle est enlevée par le pharaon, qui veut en faire sa femme. Mince, ça, c'est une sacrée épreuve quand même. Hein. Vous imaginez ? Si nous, on devait être formés comme ça ? Alors, évidemment, les choses s'arrangent, hein, il récupère son épouse, etc. Il retourne en Canaan, et là, je rappelle que Lot, lui, il l'avait quitté, et Lot, à un moment donné, il est prisonnier, et Abraham, quatrième épreuve, il doit faire la guerre. Il doit faire la guerre pour aller sauver Lot. Donc, prendre les armes. Cinquième épreuve, étant donné que son épouse ne savait pas avoir d'enfant, eh ben il va avoir un enfant avec Agar. C'est une épreuve aussi, ça. C'est une épreuve, parce que il pensait que la bénédiction viendrait de son épouse. Et voilà... Donc, Agar. Après, sixième épreuve, la circoncision. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Je parle aux hommes. Hein. Moi, je n'ai pas envie, hein, je vous le dis tout de suite. Bon. Il avait 99 ans, oui. C'est très douloureux, paraît-il. Bon. Ensuite, il y a Sarah qui est de nouveau, cette fois elle s'appelle Sarah, donc septième épreuve, Sarah est enlevée par Avimelech. Avimelech qui veut en faire son épouse. Ça devait être une belle femme, hein, parce que une femme qui avait une tenue noble. Parce que les rois voulaient cette femme.
Mais pourquoi Abraham laissait aller sa femme là ? C'était une coutume.
Oh ben, quand il voyait une belle femme, les rois, ils la prenaient. Hein. C'était le pouvoir des rois. Hein. Et donc, Avimelech, on en a parlé, hein, mais j'en reparlerai pendant le cours. Ensuite, huitième épreuve, il va devoir expulser, mettre dehors Ishmaël, son fils, avec sa mère, Agar. Je rappelle que quand Ishmaël venait de naître, Agar a dû se sauver dans le désert. Ensuite, elle est revenue. Et puis, plus tard, eh ben, c'est là que Dieu lui dit, tu écoutes ta femme et tu mets dehors Agar et Ishmaël. Et ils sont allés vivre dans le désert. Et lui, il s'est marié avec une Égyptienne. Donc ça, c'est la huitième épreuve. Neuvième épreuve, Ishmaël est déshérité. Non seulement il l'a mis dehors, mais il l'a déshérité, parce qu'il fallait que ce soit Isaac qui hérite. Vous vous rendez compte? Et puis enfin, dixième et dernière épreuve, la ligature d'Isaac. Donc il était prêt à sacrifier son fils si Dieu lui demandait, mais vous rendez compte? Alors, c'est seulement à la dixième épreuve qu'il est écrit que Dieu l'éprouva. Et éprouva, ça s'écrit Nissa, un nun, avec un i bref, comme ça, un samer avec un dagage dedans, un long, Nissa. Ça, c'est éprouvant. Il éprouva. Donc Abraham a été éprouvé pendant 10 fois, comme ça. La dernière, il est marqué ça. Et avec ça, regardez, on fait naître, comme ça, donc Nun, sa mère, naître, et naître, c'est un étendard. Donc parce qu'il a été éprouvé, il est devenu un étendard pour tous les peuples. Si vous voulez plus de détails, il faudrait retourner à l'étude sur les 10 bénédictions. C'est les 10 épreuves d'Abraham. Oui. Tu avais une question. Mais bien sûr, nous, on devient des témoins, des vrais témoins par les épreuves. Mais bien sûr. Et celui qui dit le contraire, il n'a pas compris. Ça fait partie de la vie. Et je répète encore une fois ce que le Rav Ben Chetrit enseigne, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est tout concourt au Tov, et Tov à tout ce qui nous complète. Donc le bien, c'est pas forcément, ça se voit pas toujours très, on trouve pas toujours très bien ce qui nous arrive, mais ça nous forme. Eh oui, quelquefois on doit traverser des moments particulièrement difficiles, et vous voyez qu'Abraham y a dégusté quand même. Hein? Bon, allez, on va commencer parce que là. Alors, Genèse 18, 2. Parce que ce que je voudrais voir avec vous, enfin c'est l'étude de Raïm, hein, c'est que je reprends. Hein. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est différents aspects de la bénédiction qui vient par Abraham. Dans Genèse 18, 2, on verra si on arrive à tout faire, hein. Un vav avec un a bref, un yod avec un dagesh et un i bref, un sin avec un dagesh, un halon, aleph. Alors là, ça c'est un verbe, c'est le verbe nassa. Le noun a disparu et son souvenir c'est le dagesh qui est là. C'est le verbe nassa qui veut dire supporter, soulever, lever. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Américains ils ont fait la NASA. Mais oui. Soulever, accorder une grâce, être chargé, etc. Et ici, c'est un verbe qui est à la forme active, au pâle, ce qu'on appelle le pâle, à l'accompli troisième personne du masculin singulier, avec, rappelez-vous, un vav inversif. Donc, il est accompli. Et si je le traduis, c'est « il » et « il leva » et « il leva ». Et derrière, on a Ein avec un E, Yod, Nun, Alon, Yod, Vav. Alors, la racine de ça, c'est Ein. Est-ce que Ein, ça vous dit quelque chose? C'est les yeux. C'est les yeux. Il leva les yeux. Alors, pour bien situer la scène, cette scène-là, elle se passe alors qu'il vient de se circoncire. Il est dans sa tente. Et il n'est pas bien du tout. Mettez-vous à sa place. Il doit être certainement allongé ou je ne sais pas quoi. Fiévreux, pas bien, avec la chaleur, etc. Voilà, ça se passe à ce moment-là. Et il a certainement une ouverture à sa tente. Hein, il voit le désert et il lève les yeux. Il lève les yeux. Donc, et il leva les yeux, un vav avec un abref, yod avec un dagesh, abref, resh avec un sheva et aleph. Là, la racine, c'est le verbe raha. Et le verbe raha, c'est voir, paraître, apparaître, regarder, etc. Et si on traduit ça, bon, il y a un « et » devant, si on traduit ça, ça veut dire « et il a vu » ou « et il vit ». Autrement dit, c'est vraiment une expression biblique, « il leva les yeux et il vit ». Alors vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de comprendre ça. Parce que à plusieurs endroits dans la Bible, on a ça. Il leva les yeux et il vit. Par exemple, vous avez Lot, il a levé les yeux, alors on s'imagine, en l'air, et il voit la vallée. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que, et là le Rav Ben Chetrit l'explique bien, quand il est marqué « on lève les yeux », on voit ce qu'on a envie de voir. Vous n'avez jamais remarqué que quand on est dans une situation où il y a plein de choses, eh bien on regarde et on voit ce qu'on a envie de voir, parce qu'on le cherche. L'autre, il avait envie de voir une belle vallée. Il a levé les yeux, il a vu une belle vallée. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et si c'est quelque chose qu'on a envie, c'est parce qu'on a un projet. Comprenez? C'est tout bête. On a des intérêts, donc si je cherche quelque chose, je vais le trouver. Hein. Alors, ici, c'est important de comprendre parce que ça signifie que non seulement il n'était pas bien, mais il avait un projet quand même. Il avait envie de faire quelque chose. Alors, il lève les yeux, il cherche. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des gens. Parce que Abraham, c'est un homme relationnel. Alors, la parole nous dit Shin, Lamed, avec un O, bref, Shin. Alors faites attention parce qu'il y a deux points là. Voilà, ça a fait un gros pavé. Quelquefois, c'est deux l'un sur l'autre. Hein, mais il y en a deux en réalité.
Il manque un mot. Il manque un mot.
Le mot avant.
Oh là là. On va le mettre. Donc, un vav qui veut dire « et », avec un « sheva ». Un « et », avec un « i », bref. Un « nun » avec un « dagesh » et un « et », un « et » de nouveau. « Veiné ». « Inné », vous connaissez « inné », non ? Inématome.
Ah,
alors, veiné, inné, ça veut dire voici. Et voici, donc, il lève les yeux, il est sur son lit de douleur, il lève les yeux, hein, et voici. Et là, on a le mot qui suit. Alors, je répète, hein, vous avez un shin avec un dagesh, lamed avec un o bref, un shin avec un a long et un e. Shlosha. Shlosha, ça veut dire quoi, shlosha? Ça veut dire trois. Trois. Là, ben, souvent, moi, j'entends shlosha, mais shlosha, peut-être en hébreu biblique, mais c'est vrai qu'en hébreu moderne, le premier, il dégage. Mais c'est shlosha, normalement, on devrait l'entendre. Shisho. Shisho, t'en as raison. Alors, ici, on a maintenant un mot important. Un Aleph avec un A bref, enfin un Sheva coloré en A, un Noun avec un A long, un Shin avec un I long et un même final. Faites pas attention aux deux petits points qui sont au-dessus, là. Vous voyez les deux petits points qui sont là. Ça, c'est un signe de cantillation qui veut dire qu'après ce mot, il y a un bref arrêt. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et voici trois anachim. Trois anachim. Alors, vous voyez que c'est un pluriel masculin. C'est déjà ça. Et la racine, c'est Enesh. La racine, c'est Enesh. Comme ça. Voilà, Enesh. Et Enesh, ça veut dire homme. Vous allez me dire, tiens, je n'avais jamais entendu homme comme ça, parce que souvent on dit ish.
Oui.
Mais oui, mais ish, c'est un diminutif de ça. Ça va donner... Vous rappelez aussi le petit-fils d'Adam. Ouais. Enoch. Parce que vous savez que Cain et Abel ont disparu. Il y a eu un troisième. Ce troisième, il s'appelle Chet. Chet, ça veut dire fondation, fondement. Et il va avoir un fils qui s'appelle Enoch. Enoch, c'est la racine. Ici, Enoch, ça veut dire un homme. C'est quelque chose d'important, vous savez, parce que un homme, c'est pas une bête. Vous savez, quand Moïse, il a tué un homme, il s'est dit, il n'y a personne, pas vu, pas pris. En vérité, il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne capable de faire la justice. Autrement dit, il n'y avait pas d'homme. Donc, un homme, dans le sens biblique des choses, c'est quelqu'un d'important qui sait prendre des décisions, qui sait... C'est un homme. Je ne vais pas le dire autrement, mais vous avez compris. Donc, quand on parle de Anachim, ça veut dire des personnes qui sont importantes. Et, par exemple, les 12 princes d'Israël étaient appelés des Anachim. Vous voyez ? Alors, ces trois hommes, vous voyez que la Bible ne nous parle pas d'anges, hein ? Il voit trois hommes. Et des hommes qui ont une certaine allure, parce que c'est des hommes, voilà. Et la tradition juive nous dit que c'était des anges, Michaël, Raphaël et Gabriel. C'est la tradition. Moi, je vous le dis, hein. Seulement, la parole de Dieu ne nous le dit pas. C'est la tradition. Mais on remarque que je vais peut-être abréger le verset. On remarque dans ce verset, quand il les vit, attention, je vous rappelle qu'il vient de se faire circoncis, il n'est pas en état. Quand il les vit, il courut à l'entrée de la tente à leur rencontre. Faut le faire quand même, non? Si vous voulez essayer. Et il se prosterna. Il se prosterne devant eux. C'est-à-dire qu'il les considère que c'est des gens importants. Et puis aussi, ça marque une humilité. Une grande humilité. Il les a jamais vus, hein? C'est des étrangers, ils ne les ont jamais vus, ils ne savent pas d'où ils sortent. Vous imaginez ça? Alors, dans ces trois visiteurs, il y en a un qui va annoncer à Sarah, c'est parce qu'elle s'appelle Sarah à ce moment-là, la naissance d'un fils, ce qui l'a fait bien rire. Et c'est pour ça que ce fils s'appellera Yitzhak, qui veut dire « il rira ». Hein? Et puis, un petit peu plus tard, donc il va leur donner à manger, etc. Un petit peu plus tard, il y en a deux qui partent en direction de Sodome. Bon. Donc ces deux-là, ils vont se retrouver chez Lot, etc. Hein, on connaît l'histoire. Et quand ils arrivent dans la région de Sodome, Eh bien là, on les appelle non plus des hommes, mais, je vais vous le marquer, alors, un « he » avec un « abref », un « même » avec un « dagesh » dedans, donc vous reconnaissez l'article là, d'accord ? Ça va ? Ça revient ? Il y a eu les vacances, hein ? La « med » avec un « sheva », Aleph avec un halon, un kaf avec un ilon et un même final. En dessous du même, si c'est un A bref, voilà. Alors, si on lit ce mot, donc c'est les deux personnages, hein, c'est forcément, c'est un pluriel, vous voyez que ça se termine en im, c'est un pluriel masculin, et là, on a amalachim, amalachim, et la racine de ça, non, ça c'est l'article. Ça, c'est l'article, donc vous pouvez le retirer. Là, le dagesh, il s'en va. Bon, ben, la racine, c'est ces quatre lettres-là. Vous voyez ? D'accord ? Puisque là, c'est un pluriel, après. Hein, ça, on peut le retirer, c'est un pluriel. Donc, il vous reste même la med, aleph, kaf. Et ça, c'est... Alors, je vous écris la racine. Même avec un sheva coloré en A, lamed avec un sheva, aleph avec un halon et un kaf final. En fait, c'est malach, malach, malach. Et malar, ça veut dire un envoyé ou un ange. Voilà. Donc on découvre seulement là qu'on a affaire à des anges. Pas avant. D'accord ? Et et maintenant, on va faire le deuxième verset. Je m'excuse de prendre du temps comme ça. On va parler un petit peu de ce qui se passe, parce que vous avez deux anges qui arrivent à Sodome, mais qu'est-ce que fait Abraham pendant ce temps-là ? Abraham, parce qu'après tout, il y en a un qui est resté avec lui. Alors, Genèse 18, 22. Vav, avec un abref, yod, avec un dagesh et un i, p, ou plutôt f, avec un sheva, nun, avec un ou, voilà. Est-ce que vous pouvez lire ce mot ? Va, i, vaif, nous. C'est un F, hein ? Je vous rappelle, c'est un F, parce que si c'était un P, il y aurait un dagesh dedans. Donc, vaif, nous. Et ça, la racine... C'est Pana, qui veut dire se tourner, s'éloigner, se retirer, se détourner. Et donc, c'est un verbe qui est à la forme. Alors, il y a un vav dedans, vous voyez au départ. C'est un verbe qui est à la forme pâle, c'est-à-dire active, à l'inaccompli, troisième personne du masculin pluriel, puisqu'ils sont deux, plus un vav qui est inversif, donc c'est accompli. Vous l'aurez sur la feuille, hein, ça. Et donc, si on le traduit, ça veut dire « et ils tournèrent » ou « ils s'en allèrent », si vous préférez, puisque c'est ça, se tourner. Un même avec un i bref, un shin avec un dagesh dedans, et un a long, et un même final. Alors là, il faut se rappeler d'une chose. Alors on va lire le mot. Le début, Misham. Est-ce que vous ne reconnaissez pas quelque chose là-dedans? Il y a un préfixe. Il y a quelque chose devant. Alors, si vous voulez, le mot c'est Sham, ici, mais devant, il y a un préfixe. Min. Min, je vous rappelle, ça s'écrit comme ça. Min. Ça, c'est un noun final. Hein. Mais le noun, il disparaît et il se transforme en un point ici. Il laisse un souvenir comme ça. Donc, min, ça veut dire depuis. Et sham, ben, ça veut dire ce lieu. Donc, et ils tournèrent depuis ce lieu, cet endroit où ils sont là, c'est-à-dire la tente d'Abraham. Ensuite, vous avez le mot, un mot assez long, mais que vous connaissez parce qu'on l'a déjà vu, un « et » avec un long. Aleph avec un Sheva coloré en A, un Nun avec un A long, un Shin, un I long et un même final. Alors, je vous laisse prononcer ça et vous pouvez me dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Anashim. Anashim, on l'a vu il y a 5 minutes. Ce sont les hommes. Mais ici, vous avez l'article devant. Alors, je rappelle une petite règle toute bête. C'est que un article, c'est un « et » avec un « abref » et un « dagesh » dans la lettre qui suit. Ça, c'est le « lalé ». Mais on n'a pas le droit de mettre un « dagesh » dans un « aleph ». Donc, comme on ne peut pas mettre ce dagesh, eh bien, on agrandit le A. Voilà. Au lieu que ça soit un bref, ça devient un A long. C'est une petite règle de grammaire. Et donc, on a bien l'article ici. Donc, si je traduis le verset, ça veut dire « Et ils tournèrent depuis là les hommes ». Les hommes. Donc c'est toujours des hommes à cet endroit-là. Je vous signale qu'ils ont mangé, hein. Il leur a sûrement lavé les pieds, alors qu'ils rigolent pas. C'est vraiment des hommes. Et ça m'a toujours fait réfléchir, ce truc-là. Comment ils font pour des anges manger ? C'est vrai, quoi. Puis après, tout d'un coup, oui. Marc,
il est dit dans le comment certains ont accueilli des anges
sans le savoir, à leur table. Oui, les anges.
Dans Juge, celui qui a annoncé la naissance pour Samson, c'était un ange,
il dit. L'ange de l'Éternel.
Il a cru que j'ai mangé, mais je n'ai pas mangé. Quand il y a eu un.
Ah.
Ils lui ont offert quelque chose. Dans Juge 8, un truc comme ça.
Oui, mais les anges. Puis Yeshua, quand il est ressuscité, il a mangé. Et il traversait les murs. Ça m'a toujours posé un gros problème, ça. J'essaye de piger comment ça marche. Alors, on continue. Vav avec un A bref. J'essaye de ne pas sauter de mots. Yod avec un dagesh et un E. Lamed avec un Sheva. Un Kaf avec un OU. Alors, on va essayer de lire ce mot. Va, yel, chou. Va, yel, chou. D'accord ? Alors, va, yel, chou, la racine de ça, il y a un vav devant, évidemment, c'est un verbe qui est aussi, alors, à la forme pâle, active, à l'inaccompli, mais avec un vav inversif devant, donc ça devient de l'accompli. Troisième personne du pluriel. Et la racine de ça, c'est Yalar. Yalar. Voilà, comme ça, ça s'écrit. Yalar, qui veut dire partir, s'en aller, avancer, déménager, aller au loin. Autrement dit, si on traduit ce mot là-bas, ben ça veut dire « et ils allèrent ». Je reprends depuis le début. « Et ils tournèrent de là les hommes, et ils allèrent. » À sa mère, avec un Sheva, Dalet avec un O bref, un Mem avec un Sheva et un E final. Pardon, c'est un A. Un A long, sous le même. Alors, comment vous prononcez ça et c'est quoi ? Alors, Sodoma. 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 Vous allez dire, ben, c'est pas Sodome. Sodoma. Ouais, mais il faut savoir que le ça ici, regardez. Le A final, ici, avec un E comme ça, ça veut dire en direction de. Et donc, bah oui, vous avez Sodome, il appelle Sodome ici, mais ça c'est les voyelles, hein, c'est de la grammaire. Donc, ils partirent en direction de, ou à Sodome. Le mot suivant, on ne va pas l'écrire parce qu'il est tellement clair, c'est « et Abraham ». Donc, il est dans sa tente. Il reste avec un personnage. Il n'y en a que deux qui sont partis. Il reste avec un personnage. On le sait qu'il n'y en a que deux qui sont allés à Sodome. Donc, et Abraham, Derrière, on lit Ein, avec un O long, comme ça, Dalet, avec un Ségol, Nun, avec un Dagesh dedans, et un OU. Alors, il y a un suffixe là. Nous. Nous qui est le suffixe qui veut dire lui. Et devant, il y a un petit mot utile qui est od. Allez, vous l'avez là, od. Hein. Ein, O, Dalet, Od. Od, ça veut dire encore. Donc, ça veut dire un jour, une continuation, encore, hein, ou à côté. Donc, je lis depuis le début. Et ils tournèrent de là les hommes, et ils allèrent à Sodome. Et Abraham, lui encore, ça veut dire qu'il a déjà commencé. Vous comprenez ça? C'est important de comprendre ça. Ça veut dire qu'il a déjà commencé à faire quelque chose. Et il continue. Lui encore, Ein, avec un O bref, même, avec un E, Dalet. On lit ce petit mot, Omed. Omed, ça veut dire, c'est un verbe qui est à la forme pâle, donc active, mais au participe. Donc, et ça veut dire se tenir, s'arrêter, rester, se présenter, et lui encore, se tenant, ça participe. Se tenant ensuite nous avons un lamed avec un i bref un f avec un sheva un nun avec un e et un iode. Alors, quelle est la racine de ce mot-là? Lifnei. La racine de ce mot. Je vais vous l'écrire, vous allez le reconnaître. Un P avec un dagesh dedans et un A long. Nun avec un I long et un même final. Panim. Panim. C'est les faces. Vous savez que ça ne se fait jamais au singulier. Les faces de Dieu, il y en a plein. C'est-à-dire que quand on rencontre Dieu, on rencontre une face de Dieu, mais demain ce sera peut-être une autre, etc. Donc vous voyez que c'est toujours au pluriel. Moi je suis désolé que dans les Bibles on ait traduit la face de Dieu. Non, c'est toujours au pluriel. Qu'il tourne ses faces vers toi. Comme ça tu apprendras à le connaître sous ses différentes facettes. Donc, ici, pourquoi c'est pas écrit Panim? Alors, ici, déjà, vous avez un lamed devant. Le lamed, il veut dire vert. Et la façon dont c'est écrit Lifnei, ça veut dire que c'est accroché au mot suivant. C'est du pluriel. Mais c'est accroché au mot suivant. Et le mot suivant, c'est Yod et Vavé. Vous avez compris? Donc, on nous dit clairement ici qu'Abraham, alors qu'il venait de se faire circoncire, il reçoit la visite de l'Éternel. Dans les trois hommes, il y avait l'Éternel. C'est clair.
Mais il ne le savait pas au début.
Mais non, il ne le savait pas. Mais quand Yeshua est venu sur terre, qui c'est qui avait compris que c'était Dieu? Vous voyez? Donc ici, il reçoit, il lave les pieds, il donne à manger à l'Éternel lui-même.
Mais voilà. Il en a été conscient à quel moment? Alors, puisqu'on parle.
Il s'en est rendu compte parce que c'est avec lui qu'il va discuter pour sauver Sodome. C'est lui, le personnage important des trois, qui va prendre la décision si on sauve ou si on ne sauve pas Sodome. Mais vous vous rendez compte?
C'est impressionnant.
C'est extraordinaire, ça, non? Alors, je voudrais revenir un petit peu, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon bouchon, parce qu'après il sèche ce truc-là, un petit peu en arrière, parce qu'il leur a donné, quand il a reçu les trois, là, il leur a donné à manger. Devant Yod et Vavé. Devant Yod et Vavé. Je vais lire une traduction. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Quand il y avait les trois, hein, dans Genèse 18:8, on lit, il prit ensuite, alors je vous rappelle, hein, il n'est pas bien, hein, il prit ensuite du beurre, du lait, le jeune bœuf préparé, et il leur servit, il se tenait près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Ça, c'est la traduction de Samuel Cahen. Samuel Cahen, c'est un juif qui a traduit la Bible, et Chouraki s'est inspiré de cette traduction-là. Donc, il prépare du lait et de la viande. Vous allez dire, ben, c'est bizarre ça, parce que c'est pas cachère.
On ne peut pas manger les deux.
Oui, mais Abraham n'est pas juif. Abraham, c'est un hébreu.
Il n'avait pas encore eu la
même. Vous comprenez? Donc les lois n'étaient pas encore données. Et c'est loi pour les juifs. Mais non, lui, c'est un hébreu. et il va bénir tous les peuples de la terre. Et donc, il n'est pas tenu à ça. Alors, Abraham, il est malade, il n'est pas bien, mais il n'est pas passif. Et il crée l'histoire par son activité, en premier, par pourvoir aux besoins des gens qui sont venus chez lui. Et une question se pose, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est simplement leur donner à manger ou est-ce qu'il se cache autre chose dans les versets? Alors ça, il n'y a que les juifs qui sont capables de vous l'expliquer, parce qu'il faut aller voir les expressions juives, et je vais vous en parler un petit peu. Alors, je n'ai pas mis le verset Genèse 18:8, mais il y a deux expressions dedans qui sont très particulières et qui ont un sens particulier. Et ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Donc, il les a nourris. Il les a soignés. Et sans doute rafraîchis. Parce que dans le désert, la première chose qu'on vous fait, c'est vous laver les pieds et vous donner à boire. Et là, dans ce verset de Genèse 18:8, il y a un petit bout qui s'écrit. Alors, Ein, avec un O bref. Alors, dans le papier que vous aurez, vous irez corriger, parce que j'ai fait une faute, au lieu du Ein, j'ai mis Aleph. Même, avec un et Dalet, et puis un petit peu plus loin, Ein avec un A bref, Lamed, un tiré, et puis quelque chose qui suit derrière, comme ça. Donc c'est cette expression-là qui est importante. Dans la traduction traditionnelle, ça se traduit, je vous relis le verset, il prit ensuite du beurre, du lait, le jeune bœuf préparé, et le leur servit. C'est ça. Le leur servit. D'accord ? Il y a un M derrière pour dire leur, ici. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais, dans d'autres versets de la Bible, avec d'autres voyelles pour des questions de grammaire, on va avoir quelque chose de tout à fait différent. Et en particulier dans le livre d'Esther, au chapitre 8 et au verset 11, je vous le lis. Alors ça commence, le roi avait permis aux Yehoudim, Yehoudim c'est les Juifs, Yehoudim de chaque ville de s'assembler et de défendre. Ça veut dire défendre aussi. Et de défendre leur vie. Autrement dit, Abraham avait dans la tête non pas seulement de les nourrir, mais de les protéger. Ouais. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Les protéger. Donc, en servant ces trois hommes, il avait l'intention de les défendre. Défendre leur vie. Autrement dit, sa tente, c'était la maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est l'Éternel qui est rentré dans sa maison. Si c'est pas formidable, ça.
L'alliance même dans la souffrance, en voyant le cas d'Abraham qui rencontre Dieu, même dans la souffrance, Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi et tu peux le servir. Même dans la souffrance. C'est une leçon, hein. Alors, il y a dans ce verset, toujours de Genèse 18:8, que vous pourrez aller voir, il y a encore autre chose, une autre expression, qui est « nun », avec un « o » bref, « tav », avec un « e » et un « nun » final, et puis plus loin, Lamed avec un I, P, plutôt F, avec un Sheva, Nun avec un E et suivi d'un Yod. Donc ici, c'est Noten, Lifnei, quelque chose. Hein? Alors, noten, c'est le verbe natan, qui veut dire donner. D'accord ? Donc, c'est cette expression-là, on va la retrouver dans un verset que vous connaissez très bien. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Eh bien, c'est la même expression. Autrement dit, quand il a donné à manger et qu'il a protégé ses hommes, il mettait la bénédiction devant eux. C'est ça que ça veut dire. Et quelquefois, on ne voit pas toujours les bénédictions de Dieu. Pourtant, elles sont mises devant nous. Hein? Je mets devant vous la bénédiction. Autrement dit, cet homme, Abraham, quand il a reçu ces trois inconnus, il voulait les bénir. C'était dans son projet. C'était un homme qui bénissait tout le monde. Alors, on va continuer notre étude, et Abraham, il va discuter avec Yod et Vavé qui est dans sa tente. Il va discuter. Et Abraham, c'est un homme qui est d'une droiture légendaire. Donc, il va discuter avec Yod et Vavé, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Discute avec Yod et Vavé dans sa tente, c'est la tente de Dieu, c'est son temple au milieu du désert. Abraham s'approcha et dit : feras-tu périr le juste avec le méchant ? Est-ce que tu vas faire ça ? Et on va voir le verset, mais vraiment si Dieu faisait ça, ça ne serait plus le Dieu d'Abraham. Il ne peut pas comprendre que Dieu puisse supprimer le juste et le méchant de la même façon. Il ne peut pas comprendre ça, ce n'est pas juste. Donc, il va lui dire à Yod et Vavé, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Moïse a discuté de la même façon hein, avec son Dieu. Ces gens-là, ils discutaient avec Dieu, tu peux pas faire ça, sinon t'es pas mon Dieu. Tu te rends compte? Et vous allez voir les mots qui sont pris. Donc, c'est dans le verset Genèse 18, 25. Vous allez voir le mot. Ils discutent, hein. Achet avec un halon. Lamed avec un i bref. Lamed avec un halon. He. Et je vous mets tout de suite le mot qui suit. Lamed avec un dagesh et un sheva. Et un kaf final avec un a long dedans. Bon, c'est important ça.
Daniel.
Oui.
Bon, à son âge, Abraham. Bon, il y avait déjà de l'âge. On peut dire que son instruction, elle a été dans la justice.
Absolument.
Parce qu'il n'est pas devenu juste.
Il n'est pas devenu juste de subitement. Non, non, il a toujours. C'est un homme intègre.
Oui, mais ses parents l'ont instruit dans la justice.
Certainement. Certainement.
Malgré qu'il ne connaissait pas Dieu.
Oui. Mais certainement, oui. C'était un homme intègre. Il y a quelque chose de naturel dans la justice. Hein. On ne peut pas être injuste. Ce n'est pas possible. On a une conscience aussi. On a une conscience. Si elle n'est pas étouffée, on sait discerner quand même des choses, même si on n'est pas croyant. Voilà, Job en était un. Noé. Tous ces gens-là. Hein? Alors, ici, le premier mot, lisez-le un peu pour voir. Khalila. Khalila lecha. Khalila lecha. Alors, on va s'arrêter un petit moment là-dessus parce que ça vaut le dérangement. C'est Abraham qui parle à Yodévavé. Hein. Est-ce que vous reconnaissez un verbe là-dedans? Non. Oui, l'écha, c'est facile. Ça, c'est pour et toi, vers toi, pour toi. Mais le premier mot. Je suis sûr que vous le savez. Il y en a un qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et avec lequel on fait Alléluia.
Mais c'est Alléluia, donc c'est mot profané.
Alors, il y a Halal. Attention, c'est pas du Halal. Hein. Halal, ça veut dire louer. Halal. Il n'y a pas le trou là, ça veut dire profané. D'accord ? Alors si vous entendez quelqu'un qui dit Hallelujah, ça veut dire profanons Dieu. Donc il faut lui expliquer gentiment et qu'il change. Hein, parce que ça ne se fait pas de dire ça. Quelquefois on veut paraître plus hébreux que les hébreux et on dit des conneries. Bon. On ne fait pas ça. Donc c'est Alléluia. Hein? Et ici, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit profanation pour toi. C'est Abraham qui parle à Yodévavé. Il lui dit je vais expliquer, hein, si jamais. Tu détruis le juste et le méchant de la même façon, c'est une profanation pour toi. Wow. C'est dire que Abraham, c'est quelqu'un qui aime la justice. Hein. Et il dit, tu faut que tu sois juste, hein, Dieu, sinon tu n'es pas mon Dieu. Quelle intimité, pour se permettre de dire ça. Ouf. Il est en présence de Dieu, je ne sais pas, c'est... Alors, le mot qui suit, c'est un même avec un « et », ein avec un sheva coloré en A, sin avec un O, tav. Vous faites attention, il y a deux points. Donc là, le ça se lit Measot. Measot. Et de Measot, et ben le verbe c'est Assa, qui veut dire faire, avoir fait, donner, disposer, exécuter, etc. Autrement dit, agir, si vous voulez. Et ici, c'est à l'infinitif construit. Et donc, ça se traduit profanation pour toi d'agir. Kaf avec un dagesh dedans, avec un abref. Dalet avec un dagesh dedans et un allon. Bet avec un allon. Et resh. Parce que je vous rappelle que Dieu avait dit qu'il allait détruire Sodome. Hein. Donc, Abraham le reprend. Il dit, profanation pour toi d'agir. Alors, ici, ça se lit cadavar. Le préfixe qui est devant, ici, veut dire comme. Il y a également un article qui est caché, qui est ici en fait. Il est caché l'article. Comme et davar, davar c'est la parole. Comme la parole, autrement dit, Abraham est en train de reprendre l'Éternel qui a dit qu'il voulait détruire Sodome. Mais Abraham, il se dit, mais s'il y a des justes dans la ville, c'est une profanation de détruire Sodome. Profanation pour Dieu de détruire Sodome. Vous vous rendez compte? Il savait qu'il y avait l'autre dedans. Et sa famille. Donc, le problème, c'est... Après, ils vont compter le nombre, vous le savez. Et ça s'arrête à 10. C'est pour ça que maintenant, quand on... Dans une ville, si on veut créer une synagogue, il faut qu'il y ait 10 juifs. Hein? Donc, ce 10-là, c'est quelque chose qui est fort important. Et vous voyez que dans la famille de Lot, il y a à peu près la moitié qui n'a pas voulu sortir. Parce que Lot avait au moins 4 filles. Il y en a 2 qui sont sorties, qui n'étaient pas mariées, mais il y en avait au moins 2 autres qui étaient mariées. Puisqu'il avait des gendres. Des gendres, c'est au moins 2. D'accord ? Eh bien, si les gendres avaient voulu, et donc s'ils étaient sortis, ça aurait fait 10. Ça aurait fait 10 et la ville n'aurait pas été détruite. Vous voyez? Mais là, comme ils ont voulu rester, eh bien, il n'y avait pas 10 justes dans la ville quand ils sont sortis, et c'était fini, elle a été détruite. À quoi ça tient, hein? Alors vous voyez, les gens qui veulent, parce que nous on est en train de faire des lois n'importe quoi dans nos pays, il y a des gens qui sont prêts à bombarder la France pour qu'elle se corrige, etc. Mais attendez, il y a des justes aussi en France. Dieu n'est pas comme ça, hein. Donc on va discuter avec Dieu, avec l'Éternel.
Il y a la Belgique aussi,
hein. Il y a la Belgique aussi à côté. Et puis tous les pays autour, hein. Mais non, mais il n'y a pas que des méchants, hein, il y a aussi des justes. Bon, on continue. Alors, le mot suivant, c'est A-E avec un A bref, Sein avec un Dagesh et Segol et un He. Ça veut dire, alors ça se prononce azé. Azé, c'est un petit mot utile. Hein. Azé, ça veut dire celui-ci. Alors, si on veut reprendre la traduction, on pourrait dire profanation pour toi d'agir selon le discours, celui-ci, celui que tu viens de dire. Hein? Tu veux détruire Sodome? Attention, hein. Il y a peut-être des justes dedans. Vous voyez? Alors, le mot suivant, Lamed avec un Sheva, un He avec un Alon, un Mem avec un Ilon et un Mem final. Pardon, c'est à table. Qu'est-ce que j'étais faire là? Mais j'attendais que vous réagissiez. Hein, là. C'est à table. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans, non? Léamite. Vous vous rappelez de Emmet?
Ah oui, la vérité.
La vérité. Si on retire le Aleph qui est au début et qui représente Dieu, l'Éternel, il reste Met, la mort. Donc la vérité sans Dieu, c'est la mort. Alors, ici, vous avez Mout. Mout, c'est la mort.
Non, c'est Mit.
Mit, pardon, Mit. C'est une question de voyelle, c'est la grammaire. Mais ça veut dire que c'est un verbe qui est à la forme ifil, à l'infinitif, et qu'on peut traduire pour faire mourir. Profanation pour toi d'agir selon le discours, celui-ci, celui que tu as donné, celui que tu as dit, pour faire mourir. Un tsadi avec un A bref. Dalet avec un dagesh dedans et un ilon et un kof. Vous reconnaissez ce mot? Tzadik. Tzadik, ça veut dire quoi? Les tzadikim. Hein? C'est des justes, c'est ça, injuste. Un tzaddik, c'est injuste. D'accord? Le mot suivant, je vais le mettre en dessous. Je suis pris dans les ficelles. Alors, Ein, avec un I bref, un même final, tiré. Resh, avec un A long, Shin, avec un A long, Ein. Tzadik im Racha. Le Racha, c'est le méchant. Im, ça veut dire avec. Voilà. Donc c'est tout simple. Pour faire mourir un juste, parce qu'il n'y a pas d'article, un juste avec un méchant. De la même façon. Alors, comme j'ai encore pas mal de choses à vous raconter, je vais raccourcir. La suite veut dire « Il en soit comme le juste, comme le méchant, profanation. » Deux fois profanation, ils disent. Il faut être culotté quand même hein, pour dire ça à Dieu. Mais ça montre l'intimité qu'il avait avec Dieu, parce qu'il pouvait dire des choses à Dieu. Profanation pour toi. Est-ce que le juge sur toute la terre ne pas faire justice? Est-ce que le juge sur toute la terre ne fera pas justice? Est-ce qu'il ne va pas faire attention à la vie des gens et détruire parce que quelque chose de mauvais est monté aux cieux à partir d'une ville? Est-ce qu'on ne va pas aller voir ce qui se passe dans la ville pour voir s'il n'y a pas des justes? Des justes qui souffrent d'ailleurs. Lot, il souffrait dans la ville. Mais qu'est-ce qu'il avait été faire là-dedans? Ça. Il avait levé les yeux et il avait vu que c'était là qu'il fallait aller. C'est pas très malin, mais bon. Je rappelle que Lot, c'était pas quelqu'un qui, comme Abraham, avait rencontré Dieu. Lot, c'était un suiveur. Il suivait Abraham. À un moment donné, ils ont un ennui parce qu'ils ont trop de choses en commun, donc ils vont finir par se battre. Donc, ils se séparent. Mais il a toujours l'esprit d'un suiveur. Donc, il vit selon ses intérêts. Abraham, il est déterminé parce qu'il a rencontré Dieu. Et d'ailleurs, il l'a rencontré dans sa tente. Mais il connaît Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pu traverser les 10 épreuves sans renier son Dieu. Parce qu'il a connu son Dieu. Il y a des gens, à la première épreuve, ils dégagent. Parce que ce sont des suiveurs. Je suis désolé de dire comme ça. Mais c'est la vérité. Alors, Abraham a fait encore d'autres choses pour bénir. Et c'est important. J'en ai déjà parlé, mais je le reprends. Dans Genèse 20, 17, vous vous rappelez que Sarah a été enlevée par Avimelech pour en faire sa femme. Heureusement, il ne l'a pas touchée. Mais toutes les femmes de cet homme, il avait toute une série de femmes, toutes stériles, à cause de ça. Parce qu'il avait enlevé Sarah, toutes ses femmes ont été stériles. On ne s'imagine pas hein, les raisons spirituelles quelquefois. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Attention, il avait pu sa femme. Hein. Abraham, il a prié pour que les femmes d'Avimelech, elles aient des enfants.
Oui, mais elle a été longtemps la femme d'Avimelech, alors. pour se rendre compte que les femmes, elles étaient stériles.
On ne sait pas le temps.
Non, mais on peut en faire une déduction comme celle-là.
Ouais. Mais souvent, dans la Bible, on ne se rend pas compte des temps. Hein? Donc, je ne sais pas combien de temps elle a été prise comme ça. Et donc, il a prié pour Avimélec, pour sa famille, et ses femmes ont eu des enfants. Et grâce au fait qu'il avait prié pour ça, sa propre femme a eu un enfant. C'est ça la bénédiction. C'est-à-dire qu'il aurait pu en vouloir à Avimélec, comme il aurait pu en vouloir au Pharaon. Mais non seulement il a pardonné, mais il a prié pour eux, pour les bénir. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on est capable, nous, de faire ça? Et Abraham pria le Seigneur, et le Seigneur guérit Avimélec et sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent des enfants. Abraham n'a eu aucune rancune dans son cœur. Et je crois que pour comprendre ce que c'est le Père céleste, il faut justement passer par là. C'est-à-dire ne plus avoir aucune rancune dans son cœur. C'est-à-dire, et Dieu sait que dans une vie, on peut être blessé. Comme vous et moi, on a tous été blessés par quelqu'un, par des gens qui ont fait des trucs pas clairs, etc. Et Dieu nous remet en mémoire tout ça pour qu'on pardonne à tout le monde. Et quand on pardonne à tout le monde, alors la face du Père peut nous apparaître dans notre vie. Sinon, on voit d'autres faces. On peut voir la face d'Élohim. On peut voir la face guérissante. On peut voir des faces comme ça. Mais la face du Père céleste, on ne la voit que quand on n'a plus aucune rancune. Et quand on a pardonné à tous ceux qui nous ont fait quelque chose. Et ça, demandons au Seigneur qu'il nous rappelle des choses. Ça revient en mémoire. Ça nous est arrivé, nous, il n'y a pas longtemps, juste à l'occasion du Yom Kippour. Dans la préparation du Yom Kippour, plusieurs jours avant, le Seigneur nous rappelait, ah oui, il y a ça aussi, lui aussi nous a fait ça, ah ben on lui pardonne. Et on a nettoyé, si on peut dire, tout ce passif. Et c'est important de le faire. Parce qu'alors, c'est comme si on retirait des voiles entre nous et Dieu, on les retire, et on voit de plus en plus nettement la face du Père. La bonté du Père. Il faut le faire. C'est dans notre intérêt. Mais lui, Abraham, il n'avait pas de problème de rancune. Vous vous rendez compte? Qui lui a appris à prier pour ses ennemis? Il n'avait pas d'enseignant, Abraham. Il n'avait pas un pasteur. Hein? Il n'y avait personne, il s'est débrouillé tout seul. Après, il y a un autre endroit. À un moment donné, Dieu lui dit, tu vas chasser Ismaël et sa mère. Tu vas chasser Ismaël et sa mère. Mais vous vous rendez compte aussi, ça, quelle épreuve? Eh bien, il nous est dit, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils, parce qu'il aimait son fils. Abraham aime Ismaël. Et ce que Dieu lui demande, ça lui déplaît. Il va le faire. Mais vous imaginez la souffrance dans son cœur. Et c'est important parce que le déplut fortement aux yeux d'Abraham, c'est le mot méode, méode. Je vais vous l'écrire. Regardez. Amen. Avec un Sheva, Aleph, avec un O bref, Dalet. Méode. Méode, ça veut dire excessivement, très très fort. Donc ça lui a déplu très très fortement. Il l'a fait, mais certainement entré dans les pieds. Et c'est une souffrance pour lui. Et bien regardez ce qu'ils font les Hébreux. Regardez les lettres. On va remplacer maintenant, on va les déplacer. Qu'est-ce que vous avez là ? Adam. Ça veut dire que la souffrance qu'il a eue là, c'était une souffrance adamique, charnelle. Il a souffert comme un homme, comme la souffrance dans ses tripes. Il a dû renvoyer son fils. Et son fils est parti, il a vécu dans le désert avec sa mère. Il s'est marié avec une Égyptienne, puis après ça a donné la famille d'Ismaël, les 12 fils d'Ismaël. Et Dieu les a bénis. Et Abraham les a bénis. Il bénissait tout le monde. Ensuite,
oui. Qu'est-ce que c'est qu'il n'a pas intercédé comme il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe ?
De quoi tu...
Avec Ismaël. Quand Dieu lui a dit de chasser Ismaël et sa maman.
Il a dit... Il a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, je ne me rappelle plus du verset exactement, mais qu'est-ce qu'on va faire d'Ismaël ? Et c'est comme ça que Dieu dit, je l'ai béni. Donc Ismaël, la descendance d'Ismaël est bénie. Et d'ailleurs, elle a son pied dans l'huile. Ben oui, c'est des nations qui sont bénies et qui n'ont jamais été persécutées. Contrairement à Israël. Hein ?
Quels sont-elles ?
Ben, c'est tout l'Arabie, etc. Tout ça, c'est le descendant d'Abraham. Et en ce moment, il y a les accords Abraham, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout ça, ce sont des descendants d'Abraham. Il est marqué hein, qu'il les a mis à l'est, donc en Arabie, etc. Alors, ensuite, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec Avimélech. Avimélech, donc, on a vu l'histoire avec sa femme. Hein. Il a eu des enfants, etc. Donc, il a béni, vraiment, son ennemi. Et puis, avec Avimélech, il va faire la paix. Et cette paix, elle va se sceller à Beersheba. Et il nous est dit, Genèse 21-27, « Et Abraham prit du menu et du gros bétail, et le donna à Avimélech, et ils conclurent une alliance en deux. » Ils conclurent en deux une alliance. Vous savez pourquoi on dit « en deux » ? Parce que quand on faisait une alliance, on prenait un animal, on coupait en deux, et on l'écartait, et on passait tous les deux entre les morceaux. Et ça voulait dire, si je ne tiens pas ma promesse, qu'il me soit fait comme à cet animal. Ça vous donne envie d'être coupé en deux, non ? C'est ça l'alliance. Donc on dit couper l'alliance. Alors, cette bénédiction de la paix d'Abraham et d'Avimélech, parce que Avimélech, ça veut dire roi du monde. Ça vous dit rien, ça ? La paix qui a été signée à cette époque-là est tellement restée dans la mémoire des descendants d'Abraham, que le 27 mai 1979, le président Anwar el-Sadat a voulu venir à Beersheba en souvenir de la paix. Vous vous rendez compte? Abraham, c'est quelqu'un qui va cimenter le monde. Et nous faisons partie, spirituellement, de la descendance d'Abraham. Mais on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a la descendance physique, il y a la descendance spirituelle. Alors, Abraham, maintenant, et on va terminer bientôt, il y a un verset qui dit, Genèse 12, 2, « Je fais de toi une grande nation, je te bénis, je grandis ton nom. » Et là, il y a une expression qui est unique dans la Bible, c'est le seul qui a ça, « soit bénédiction ». C'est-à-dire qu'Abraham lui-même est devenu une bénédiction, c'est-à-dire une source de bénédiction pour le monde. C'est un impératif. C'est un impératif, soit bénédiction. Mais c'est après les 10 épreuves. Et alors, le verset, maintenant on le comprend mieux. Dans Genèse 17, versets 4 à 5, « Voici mon alliance avec toi, tu seras père d'une multitude de nations, et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'établis père d'une multitude de nations. » Il a tellement été... Il a tellement vécu des choses difficiles, il a tellement rencontré les faces de Dieu, il a tellement pardonné, il a tellement béni, qu'il est un père. Et il peut transmettre la notion de père au monde. Et je vais vous lire maintenant dans le psaume 47, on va prendre le psaume 47. Voilà. Le psaume 47, il a été écrit par les fils de Corée et il parle, je pense qu'il est prophétique, il parle vraiment des choses de la fin. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous voyez, on le lit souvent, ce truc-là, comme ça, sans y penser, hein. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel avance au son de la trompette, chantez à Dieu, chantez, car Dieu est toi et roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône, les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Je redis ça. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverain élevé. On arrive à la fin des temps, et à la fin des temps, ça va se produire, je ne sais pas comment, mais Abraham va être le centre, Parce que ses descendants vont se rapprocher, et tous ceux qui ont pour Dieu le Dieu d'Abraham, eh bien, les peuples vont s'y joindre. Et qui nous a permis de nous approcher du Dieu d'Abraham ? Yeshua Mashiach. Alors je voudrais simplement terminer en vous disant qu'il y a une alliance avec Yeshua Mashiach. Une alliance, c'est couper. On coupe. Une alliance, c'est chacun meurt. C'est le symbole, parce qu'on ne va pas tuer les deux personnes. Donc, on prend un animal, on le coupe en deux, et c'est comme s'il y avait les deux personnes. Yeshua a fait sa part sur la croix, il est mort. Si nous voulons entrer dans l'alliance, nous devons mourir à nous-mêmes. Sinon, nous n'entrons pas dans l'alliance. C'est notre part. Mourir à nous-mêmes, ça veut dire je m'occupe des affaires de ton royaume et toi tu t'occupes des miennes. Cherchez d'abord le royaume et la justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Et que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Merci Daniel.
Daniel,